Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons prendre quelques instants encore une fois pour nous souvenir devant qui nous nous présentons ce soir, devant la majesté divine. Et Seigneur, nous voulons te présenter nos hommages, toi qui es le roi de l'univers, le créateur, celui qui nous a donné la vie physique, celui qui nous a donné aussi la vie spirituelle. Nous te remercions de ton don infini, d'une valeur infinie. Nous te remercions de nous avoir placés en Christ de toute éternité. Nous voulons aussi nous souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ, si profonde, si grandiose, si merveilleuse, si glorieuse. Nous te remercions aussi pour le Saint-Esprit qui nous a donné la vie, qui nous a régénérés, et qui aujourd'hui, Seigneur, nous sanctifie et nous conduit vers toi, Seigneur, vers la maison paternelle céleste. Encore une fois, nous voulons te demander aussi pardon pour nos péchés. Nous connaissons notre fragilité, notre misère, et on te demande pardon pour quelques péchés que ce soit, Seigneur, tout ce que tu déclares péché. Nous sommes parfaitement d'accord avec ce que tu déclares sur nous et ce que nous avons fait. Nous te demandons humblement pardon, nous te demandons de nous donner plus de force et de résistance face au péché, de nous apprendre à le haïr et à s'en éloigner et à se repentir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons aussi ce soir de bénir les autres assemblées qui sont réunies partout, au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Et nous te demandons de bénir également ton peuple. Nous prions également pour ceux qui sont dans l'apostasie actuellement. On sait que l'apostasie est grande et a attrapé beaucoup de monde dans ses filets, ainsi que l'écuménisme. Et nous te demandons, Seigneur, de permettre que tes enfants qui sont pris dans ces problèmes puissent en sortir, puissent être informés et puissent revenir dans la fidélité à ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, ce soir aussi de nous éclairer, de permettre que l'enseignement qu'on va étudier sur ce premier point du calvinisme, Seigneur, soit bien compris, car c'est vraiment une des bases de l'ensemble du système, et une erreur ici entraîne conséquemment des erreurs dans tous les autres points également. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, et de permettre que ton Saint-Esprit nous enseigne, nous guide et nous instruise dans toutes ces choses. Encore une fois, Seigneur, on veut te rendre gloire par ces choses que nous te demandons de bénir ce soir, et que nous fassions, que nous trouvions aussi des applications pratiques de cet enseignement dans nos vies, car dans chaque enseignement qu'on reçoit de ta part, Seigneur, il y a des applications pratiques à mettre dans notre vie de tous les jours. Encore une fois, merci pour toutes ces choses. Nous te demandons par toutes ces choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Donc, on va commencer à étudier le premier point qu'on appelle traditionnellement le premier point qu'on appelle du calvinisme. Le premier point, on pourrait l'intituler la dépravation et l'inhabilité totale de l'homme, ou la corruption, parce qu'en anglais on dit total depravity, mais en français on pourrait dire la dépravité ou dépravation, je vérifie dans le dictionnaire, totale de l'homme, et son inhabilité totale spirituellement. C'est comme le solage de l'ensemble de la pensée calviniste, parce que, dans le fond, si tu ne comprends pas ça, le reste s'ensuit, parce que quand on dit que c'est l'esprit qu'il faut qu'il vienne nous réveiller, vienne nous donner la vie, c'est justement parce qu'on est mort spirituellement. Alors, ça découle du premier point, et si on se trompe dans le premier point, normalement, on se trompe dans tout le reste, parce que c'est vivant, c'est cohérent, ça se tient. Et dès que tu te trompes quelque part, ça a pour effet d'avoir des répercussions partout. Notre position sur ce qu'on pourrait dire, ce qui est la nature du péché, va nécessairement se refléter sur l'ensemble de notre pensée théologique. Ça, c'est sûr et certain. Prenez de n'importe quel système théologique, regardez ce qu'il croit que le péché veut dire, quels effets ça a eu sur l'homme, et vous allez voir que, dans le fond, c'est vraiment notre compréhension de la nature du péché qui nous donne notre compréhension du reste du salut. Parce que si on comprend mal ce que c'est le péché, jusqu'où ça nous éloigne de Dieu, jusqu'à quel point ça nous rend complètement inhabile à toute communication avec Dieu, à toute volonté de salut venant de notre part. Alors, quelque part, là, alors c'est vraiment central, le point. C'est vraiment quelque chose de remarquable que peu importe dans les milieux chrétiens que tu vas te trouver, que ce soit catholique ou néo-évangélique ou pentecôtiste ou... Alors, tout le monde s'entend sur la corruption de l'homme. Quand tu vas parler que l'homme est pécheur et qu'il est corrompu, tout le monde s'entend sur la notion que l'homme est corrompu. Maintenant, là où on ne s'entend pas, c'est jusqu'à quel degré, jusqu'à quelle profondeur, l'étendue des conséquences du péché. Alors, il y en a qui voient ça comme... on pourrait dire qu'il y a trois systèmes, trois grands systèmes, il y a toute une multitude de sous-systèmes après ça, là, de pensée, mais il y a trois grands systèmes qui expliquent le péché dans son ensemble, avec ses conséquences. Il y a ce qu'on a appelé le pélagianisme, et on avait vu dans notre leçon sur le pélagianisme que c'était à l'époque un moine, à l'époque d'Augustin, qui avait eu une controverse justement au sujet de la nature du péché. On se souvient que Pélage, en gros, on pourrait dire que lui disait que l'homme a été influencé par le péché, mais il peut encore choisir le bien. Autrement dit, lui dit qu'il y a eu effectivement une influence, mais il peut encore choisir le bien, et il allait jusqu'à prétendre que l'homme était capable d'obéir aux 10 commandements de Dieu, parfaitement. Alors, c'était un gros contrat qui se donnait. Il croyait vraiment que je ne sais pas s'il croyait vraiment ou s'il était quelqu'un payé par l'ennemi pour semer des faussetés dans l'esprit des chrétiens. Ça, c'est Dieu seul le sait. On ne sait pas. La deuxième position, c'est celle qu'on appelle l'arminianisme. L'arminianisme, c'est en gros, c'est vraiment très en gros. On résume tout un ensemble de pensées en une seule phrase. L'homme est malade spirituellement, mais il peut encore choisir Dieu. Donc ça, c'est l'ensemble. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la position de la grosse majorité de la chrétienté aujourd'hui, néo-évangélique, dans l'ensemble du monde chrétien, nord-américain et l'ensemble, je dirais, dans le monde. Alors, la façon dont le péché, eux, ils croient que la façon dont le péché les a influencés, c'est que ça les a rendus malades. Ils sont pas morts, ils sont malades. Alors, si quelqu'un est malade, il peut choisir Dieu. Alors, c'est en gros leur pensée. Et il y a le calvinisme. Le calvinisme, lui, il développe ça comme ça. Puis là, après ça, on va le voir qu'il y a des versets pour tout ça. On ne fait pas juste inventer un système avec nos propres mots. On pourrait définir le système comme ça. L'homme est mort spirituellement. Ce que ça veut dire quand il est mort spirituellement, Dieu avait condamné l'homme à mourir. Il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique. Tout le monde connaît ça. Il y a quelqu'un dans notre famille où on a tous été vus ou été témoins de la mort physique. La mort spirituelle, Dieu nous dit dans sa parole que tous les hommes qui naissent après Adam, parce qu'Adam, lui, est venu au monde sans la nature pécheresse, parce que Dieu l'avait fait correct. Mais tous les hommes qui sont venus au monde après Adam, par descendance, par génération ordinaire, nés au monde de femmes, tous les hommes qui viennent au monde sont pécheurs. Et ils sont morts spirituellement parce que Dieu avait dit que si vous mangez du fruit de l'arbre, la science de bien du mal, tu vas mourir. Alors, tous les hommes venant au monde sont morts spirituellement. Le pauvre du monde ne semble pas saisir ce que ça veut dire mort spirituellement. Parce que quand tu prends la mort physique, je me souviens, tu viens de l'exemple qu'on utilisait à l'école biblique, le professeur nous disait, il dit, si ma tante est morte, puis qu'elle est dans son tombeau, elle est dans sa tombe, puis je vais la voir, j'ai une grande aiguille à chapeau. Je prends mon aiguille à chapeau, et je la pique. Il va-t-il se passer quelque chose? Il ne se passe rien, parce qu'elle est morte. Mais la mort spirituelle, c'est la même chose, c'est qu'on ne peut pas réagir face aux choses divines, parce qu'on n'a pas de vie divine. On est mort spirituellement, et ça nous enlève tout du vide. Donc, le premier point, c'est que l'homme est mort spirituellement. Le deuxième point, complètement souillé et dominé par le péché. Alors, l'homme, quand il vit au monde, la seule chose qu'il sait faire de façon naturelle, et même, tu peux t'arrêter, là, l'été, observe des enfants de 2 ans, 3 ans. Puis regarde déjà comment ils sont portés au péché, soit par leur égoïsme, soit par leur violence innée. Tu regardes des enfants, là, j'ai déjà regardé, mais juste observer des enfants jouer d'un carré de sable. Ils prennent le pelle, ils se garochent ça sur la tête. C'est naturel. C'est naturel dans leur nature, même d'un enfant, de déjà commencer à être méchant. Ça va pas compte, mais il est de même naturellement. Alors, il est dominé par le péché déjà dès son enfance. Et le troisième point, complètement incapable d'aucun bien spirituel. Là, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par incapable d'aucun bien spirituel. Ou incapable d'aucun bien spirituel selon Dieu. Parce que Dieu dit que les œuvres des hommes, à ses yeux, à lui, si t'es pas sauvé, c'est comme un torchon souillé. Donc, tu vois que quand on n'est pas en Jésus-Christ, qu'on n'est pas sauvé, peu importe le type d'œuvre qu'on peut faire, Mère Teresa peut en faire des super de belles œuvres. Ramasser des personnes à Calcutta qui sont en train de se faire manger par les rats dans les rues, les prendre, les emmener à quelque part pour les faire mourir dignement. Leur donner la nourriture, leur donner les soins qu'elle pouvait leur donner. Super de belles œuvres. À nos yeux, à nous. Et si elle n'était pas sauvée, puis qu'elle présente ça à Dieu pour lui offrir ça comme offrande pour rentrer au ciel. Mais aux yeux de Dieu, Dieu dit dans sa parole que ça vaut la même chose qu'un torchon souillé. Parce que c'est pas fait en Jésus-Christ. Alors, incapable d'aucun bien spirituel, et une autre chose à ajouter là-dessus, c'est qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas. Alors ça, c'est bien important à saisir. Au point de vue du bien spirituel, il ne peut pas aucun bien spirituel et il ne veut pas. Alors, tu as vraiment les deux. Même s'il ne peut pas vouloir, il ne peut pas. Les deux sont en train. Et après ça, complètement, le dernier point, c'est là qu'on se distingue avec les Arméniens, c'est complètement incapable de par lui-même à vouloir, par ses propres forces, de se convertir ou de se préparer pour le Seigneur. Ça rend l'homme dans une position assez inconfortable, on pourrait dire. Alors, si on résume, l'homme est mort spirituellement, complètement souillé dans toutes ses facultés, dominé par le péché, complètement incapable d'aucun bien spirituel, d'ailleurs, il ne peut pas ni ne veut pas, et complètement incapable par ses propres forces de se convertir ou même de se préparer au salut. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui met l'homme dans une position assez désespérée, merci. Alors, si quelqu'un prêche le salut correctement devant une foule et qu'il leur dit leur véritable situation, on va dire une affaire, les hommes, ça a pour effet, normalement, ce type de prédication-là, ça a pour effet de, parce que l'homme, le prédicateur, c'est la parole de Dieu, de rendre l'homme dans un état désespéré. Et quand tu lis le livre d'Azal Nettleton, là, quand il prêchait, là, il y a des gens là, qui font des semaines complètes, étant sous la conviction de péché, dans un état là, qu'on pourrait dire de mort dans l'âme, ils constataient leur état, ils constataient que c'est seule la souveraineté de Dieu qui peut les sortir de là. Et quand tu prends vraiment conscience de ça, puis si tu prends vraiment conscience de l'enfer, là, si quelqu'un ne panique pas, là, parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas ouvert, il y a une petite lumière qui n'est pas allumée. Mais si la petite lumière, elle s'allume, là, le Saint-Esprit permet que tu comprennes c'est où tu t'en vas, puis qu'il permet aussi que tu comprennes que tu ne peux pas par toi-même faire quoi que ce soit pour y aller vers le salut. Que c'est Dieu qui a l'initiative dans sa main. Si tu ne paniques pas, là, pas de problème. Parce que ça ne dépend pas de toi. Là. Alors la seule façon, à ce moment-là, c'est vraiment humiliant pour l'homme, il y a juste une chose à faire, c'est de crier vers l'Éternel, puis de supplier l'Éternel de le sauver. Il y a juste ça. Mais dis-toi une chose, c'est quand une personne a ça dans son cœur, déjà le fait qu'ils veulent être sauvés, qu'ils sentent la conviction du péché dans son cœur, avec toutes les conséquences que ça a, c'est déjà parce que le Saint-Esprit a déjà fait une œuvre dans son cœur. Donc le premier point qu'on va regarder, c'est que l'homme est corrompu. Et on va voir que là-dessus, si on s'en va voir d'autres pasteurs ou d'autres personnes dans les églises de Québec ce soir, si on dit que l'homme est corrompu, on n'a pas de problème. La difficulté en théologie, dans une discussion théologique, c'est toujours de définir, c'est toujours une question de terminologie. Tout le temps, tout le temps. Dans n'importe quoi, d'ailleurs, tu vas te rendre compte que les hommes ne se comprennent pas souvent, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. Va-t'en parler du salut que témoin de Jéhovah. Vous allez parler de la propitiation, vous allez parler de l'expiation, mais ne parlez pas de la même chose. Vous utilisez les mêmes mots, mais dans la tête à moi, il va dire quelque chose, puis dans sa tête à lui, il va dire une autre chose. Alors, on ne se comprend pas. Si la première chose qu'on fait, ce n'est pas de dire, il faut, avant de commencer la discussion, définir nos termes. Quand je dis le mot expiation, moi, ça veut dire ça, ça, ça. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne fait pas ça au départ, là, c'est ce qu'on appelle un dialogue de sourds. On se parle, ça peut durer des heures et des heures et des heures, et ça n'aboutit pas. Je sais, j'ai déjà fait des discussions comme ça. Et à un moment donné, quand tu comprends le principe fondamental que si tu ne définis pas tes termes, alors quand tu veux faire une discussion théologique avec quelqu'un, si tu ne prends pas la peine au départ de commencer par définir ce que tu veux dire, tu vas, ça ne mène pas nulle part. Alors ça, c'est bien important. Si je m'en vais dans l'église ce soir à Québec, puis je vais voir les pasteurs, je dis, est-ce que l'homme est corrompu? Tout le monde m'a dit oui. Mais quand on va venir pour discuter jusqu'à quel point il est corrompu, là, on va avoir des briques. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de calvinisme, qui se disent, il y a cinq points de calvinisme. Là, ils disent qu'ils sont cinq points. Mais si tu regardes comme il faut les cinq points, tu vas te rendre compte que le point tel que défini, tel que je le définis, pas, je ne dirais pas même pas tel que je le définis, tel que les cinq écritures le définissent, à ce moment-là, on n'a absolument pas la même définition. Et si on ne fait pas ça, là, c'est vraiment pathétique d'entendre des gens discuter si quelque part tu n'as pas pris cette peine-là. Alors, les Saintes Écritures nous disent que les hommes enseignent clairement que le péché a totalement souillé l'homme dans toutes les parties et toutes les facultés, à la fois de son corps et de son âme. On va le voir des versets tout à l'heure. Donc, c'est une doctrine qui est mal comprise parce que les gens ne comprennent pas jusqu'où ça va, dans quelle profondeur de souillure que ça va, et aussi que c'est mal interprété. Il y a des versets qui sont mal interprétés et les versets mal interprétés, à ce moment-là, ils ne comprennent pas. Il y a des versets qui sont clairs, on parle de mort spirituelle. Et là, ils vont prétendre qu'un mort est capable d'avoir un sentiment, une émotion, une volonté de faire quelque chose. Alors, tu sais, c'est comment tu définis tes termes. Si t'es mort, t'es mort. OK, c'est la dépravité. On commence parce que ce qu'on commence par faire, c'est de déterminer ce que la dépravité n'enseigne pas. Autrement dit, on va regarder le côté négatif. Ce que c'est pas. Ce que c'est pas, c'est que ça ne dit pas que l'homme dépravé est dépourvu de conscience. La preuve de ça, on va aller dans Romains 2.15. L'homme même dépravé dans sa souillure, dans son péché, a quand même une conscience. La preuve, c'est qu'on va regarder dans ce chapitre-là, et ça va nous dire que les hommes ont une conscience malgré qu'ils sont pécheurs. Les païens, donc, ont une conscience. Ça nous dit, dans Romains 2.15, ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défend. Alors, l'homme, dans son état naturel, dans son état de pécheur, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans ta tête qui s'appelle une conscience. Et cette conscience-là, c'est qu'il a mis la loi, sa loi à lui, à l'intérieur de toi, et même une personne pas sauvée sait quand il fait bien, puis sait quand il fait mal. Et ça le dit, ta conscience, elle t'accuse ou elle cherche à s'excuser tour à tour. Alors, à un moment donné, quelqu'un qui vole, même s'il est païen, puis même s'il est un inconverti, s'il vole, il sait. S'il court avec la femme du voisin, il sait que c'est mal. Alors, c'est pas qu'on n'a pas aucun, quand on dit complètement corrompu, ça n'exclut pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui vient lui déterminer si ce qu'il fait est bien ou est mal. Ça n'exclut pas non plus que l'homme ait été pourvu de toute qualité morale louable aux yeux des hommes. Marc 10, 21. On parle ici de l'épisode du jeune homme riche. On sait que le jeune homme riche n'était pas sauvé. Mais le Seigneur lui dit ici, et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima
Il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, il la donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi, te chargeant de la croix. Le Seigneur lui dit pas, écoute, là, t'as jamais suivi les commandements de Dieu, t'as jamais rien compris, tu sais pas ce que je veux dire. Le Seigneur lui dit pas qu'il a jamais obéi aux commandements de Dieu. Il lui dit pas même que sa prétention d'avoir obéi parfaitement aux 10 commandements de Dieu depuis sa jeunesse, c'est pas vrai. Il fait juste faire passer un petit test. Ah oui? Ben, suis-moi, vends ce que tu as, puis suis-moi. Il fait juste le mettre au test, voir s'il préfère son argent à Dieu. Et tout de suite, il manque son coup. Alors, ici, on voit que Dieu, ici, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui approuve du bien fait par un homme, et même, il y a d'autres passages dans le livre des Actes où on a Dorcas qui faisait des bonnes œuvres, et Dieu peut approuver des bonnes œuvres des hommes. Alors, l'homme est capable de faire des bonnes œuvres, mais aux yeux des hommes. Alors, Mère Teresa, quand elle faisait des bonnes œuvres, tout le monde l'applaudissait, elle a eu un prix Nobel, tout le monde l'applaudit, tout le monde la prenait comme modèle, et il y a même des protestants, des baptistes aux États-Unis qui disaient qu'elle était chrétienne. Parce que chrétienne, catholique, moi j'ai de la difficulté à concilier les deux, beaucoup. Et ça ne veut pas dire aussi que l'homme corrompu totalement, que l'homme s'est rendu jusqu'à la plus grave corruption possible qu'il peut se rendre. Autrement dit, moi, ce que je crois personnellement, c'est que tous les hommes ont tout le potentiel de mal intérieurement. Ce qui fait qu'ils ne s'extériorisent pas ou qu'ils ne s'actualisent pas, c'est simplement ses circonstances. Alors, la meilleure façon de voir ça, c'est de prendre des pays qui ont été en guerre. On parle d'Allemagne en 1939-45, la plupart de ceux qui ont dirigé des camps de concentration, qui ont fait des choses d'une méchanceté inconcevable, c'est des bons pères de famille en guerre. Leur vie était étudiée, puis c'était des personnes responsables, travaillées, moraux, qui ne font pas pour tout le monde, c'était pas des voleurs. C'était... Puis là, ils sont placés, les circonstances sociales changent, et là, à un moment donné, ils ont comme une occasion de révéler leur cœur sans contrainte, sans jugement sociaux. Et là, tu vois, là, des choses. Quand en Afrique, ce qui s'est passé, là, dans le pays de Mali, là, des gens, là, qui se font couper les bras à vif, là, des gens qui se font des affaires, c'est incroyable, j'ai entendu à la radio, des gens mettent, ouvrir le ventre d'une femme, lui mettent une poule, le recoudent, puis la fait courir, puis s'amuser à rire de voir la femme courir avec une poule à l'intérieur du ventre, pas morte, avec le ventre recousu, qui a fait ça avec un gros grain, avec des aiguilles. Et toutes sortes d'affaires de même. On pourrait multiplier les exemples. Il y en a particulièrement beaucoup de ces choses-là actuellement. Il y en a eu énormément en Europe, et actuellement, il y en a beaucoup en Afrique. On a juste à s'ouvrir les oreilles et à regarder ce qui se passe dans le monde. Et il y a une multitude. Alors, qui fait? C'est qu'on a tout un potentiel de méchanceté énorme dans nous-là. Ce qui fait qu'il se manifeste pas ou que ça ne s'actualise pas, c'est simplement nos circonstances. Faire venir une guerre civile au Québec, puis tu vas voir des choses de comportement de gens que tu n'aurais jamais cru qu'ils étaient capables de faire ça. Des cassages de vitrines, des viols dans les rues. Alors, plus une ville est dans des circonstances sociales où les forces policières ou les forces de l'ordre sont comme en désorganisation, ou des guerres civiles, ou des guerres entre les nations, les hommes sont capables de faire des choses. Moi, j'avoue, avoir vu des choses à la télévision, c'est à peine supportable à regarder. Ils te les montrent, là, puis des fois, là, tu viens, là, tu sais, tu te dis, comment est-ce qu'un homme peut arriver à faire des choses semblables? Bien, c'est simplement sa dépravité totale. Mais quand on dit dépravité totale, ça ne veut pas dire que chaque homme s'est rendu, a développé sa pleine potentialité ou a actualisé tout ce dont il était capable. On comprend? On comprend la même chose que... Quand un jeune homme, disons, il y a 12 ans, on voit qu'il y a une intelligence supérieure, on voit que cet homme-là, cet enfant-là, s'il est entouré, s'il est structuré autour de lui, si les gens s'occupent de lui, il va devenir un bonhomme, tu sais, il est capable, on parle ça de potentiel, on dit, il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais l'homme dans le péché, il est capable de faire des choses extraordinaires aussi. Puis d'une bassesse que je pense que même pas un de nous autres est capable de s'imaginer, ou qui serait quand même capable de tolérer. Regarde dans les camps de concentration ce qui s'est fait. Alors regarde dans les pays où il y a eu des dictatures, ou qui prenaient les gens, qui les emmenaient en dedans. J'ai déjà pogné des reportages sur, comment s'appelle le dictateur chilien, Pinochet. Et ce qu'il faisait aux gens à l'intérieur des prisons approuvées par les autorités, là, même si on compte ça, là, c'est presque incroyable. Alors, on voit que l'homme est capable de faire des choses immondes. Et ce gars-là, certains de ces gars-là aujourd'hui sont dans la société. Il y a même des bourreaux là, qui sont partis de certains pays qui vivent au Canada. Ils vivent des fois en Toronto, ils peuvent vivre une belle vie comme notre voisin, mais on ne sait même pas. Bon, il parlerait, il me semblerait un bonhomme bien ordinaire. Mais si on aurait, Dieu lui permettrait qu'on voit les choses que ce bonhomme-là a faites, on serait même plus capable d'y parler, on aurait une peur de lui épouvantable. Quand tu réalises le potentiel de méchanceté des hommes, quand tu commences à réaliser ça dans ta vie chrétienne ou dans ta vie d'homme, tout simplement, il y a de quoi lever les cheveux de sa tête. Alors, c'est sûr que l'ensemble des péchés des hommes, comme par exemple, il y en a qui sont très avaricieux, mais ils ne sont pas orgueilleux. Les autres sont bien orgueilleux, ils ne sont pas avaricieux. Alors, l'ensemble des péchés ne se manifestent pas tous. Dans la vie des gens, ordinairement, il y a toujours un ou deux péchés qui vont plus comme prendre le dessus, qui vont plus se développer dans la vie des personnes. On voit ça souvent, il y a des personnes, c'est des débauchés. Et tout ce qu'ils ont en tête, c'est juste le sexe, le sexe, le sexe, ils ont juste ça dans la tête. Le d'autre, c'est juste l'argent, l'argent, l'avarice, l'avarice, l'avarice. Ils vont vivre juste pour l'argent, ils sont prêts à vendre leurs mains pour de l'argent. Alors, on voit que les péchés des hommes, chaque homme, moi, à mon avis, pourrait actualiser toutes les formes de péché à des degrés qu'on ne peut même pas imaginer. Mais, quand on dit que l'homme est corrompu totalement, ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu au bout de ce qu'il pourrait faire. Alors, c'est bien important de faire cette distinction-là, parce qu'il y en a qui disent, quand on dit que l'homme est corrompu, ils disent, mais comment ça se fait que lui est allé à l'université, il a fait une belle carrière, puis il est allé. Oui, mais prends le même bonhomme, placé dans d'autres circonstances, dans un autre pays, puis tu vas peut-être bien voir, tu vas peut-être bien le voir sous un autre jour. Allez, malin en Afrique, là, malin mal pris, mais dans un pays où il y a une guerre civile, tu vas peut-être bien le voir faire des choses que tu n'aurais jamais soupçonné, donc il était capable de faire. Alors, c'est ça, là, quand on dit que l'homme n'est pas, il ne s'est pas rendu au bout de ce qu'il est capable de faire, c'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire non plus que l'homme soit incapable d'accomplir des actes qui soient extérieurement conformes à la loi de Dieu. On a vu Romains 2, 14, ça là. Romains 2, 14. Là, ça dit, or, quand les gentils, donc on parle de non-sauvés, qui n'ont point la loi, donc ils n'ont pas la loi il n'y avait pas la loi des Juifs, il n'y avait pas la loi morale, les 10 commandements, font naturellement les choses à la loi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, mais qui vont quand même obéir jusqu'à un certain point, obéir entre guillemets, on pourrait dire, aux choses de la loi, n'ayant pas la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Alors, les hommes, ça ne veut pas dire non plus que ceux qui n'ont aucune capacité d'obéir, on dit bien le mot, puis le mot-clé ici, extérieurement. Alors, l'homme, des fois, peut se conformer à des choses extérieurement, mais dans son fort intérieur, s'il lui était donné la possibilité de faire ce qu'il désirait, sans être jugé. Parce que pour dire la religion, dans le terme, quand j'étais élevé jeune, quand j'étais jeune, on faisait les choses, non pas parce que ça nous tentait de les faire, on était obligé. Je me souviens, mon père m'emmenait à la messe, je vais aller à la messe, mais papa qui me forçait à aller à la messe. Le soir, le dimanche soir, il m'emmenait aux veilles, pas parce que je voulais aller aux veilles, parce qu'il me forçait à aller aux veilles. Alors, je faisais des choses qui, extérieurement, étaient approuvées par les gens qui étaient dans la religion, mais si tu m'avais laissé à ma propre décision, ma propre volonté, je suis bien sûr que j'aurais mis ça de côté. Ça n'aurait pas été trop là. OK. Maintenant, est-ce que l'homme peut aussi se développer dans le mal? On va le voir un verset aussi là-dessus. 2 Timothée 3:13. On va voir que l'homme peut avancer dans le mal. C'est pas quelque chose, on ne reste pas nécessairement figé au même endroit. 3:13. 2 Timothée 3:13. Mais les hommes méchants, on parle ici de la fin des temps, c'est dans le contexte de la fin des temps, mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Alors ça, c'est un autre principe biblique qu'il ne faut jamais oublier. Il y a des gens qui prêchent, selon leur système d'eschatologie, que plus les chrétiens vont avancer, alors actuellement dans les milieux pentecôtistes, c'est juste que là, il y a beaucoup de cette pensée-là dans les milieux pentecôtistes, où on dit qu'actuellement, les chrétiens sont en train de se multiplier et que l'ensemble du monde vont venir à Christ un jour. C'est comme une façon de dire, et ici, quand tu dis des choses semblables, tu vas carrément à l'encontre des Écritures. L'homme, Dieu ne nous dit pas que l'homme va s'améliorer, que l'homme va se convertir, plus on va rapprocher du retour du Seigneur. Ça nous dit exactement le contraire. Plus les hommes religieux qui portent le nom de chrétien, plus on va s'approcher de la fin, plus ils vont s'éloigner, l'apostasie, et plus, au point de vue du péché, ils n'iront pas en s'améliorant, ils vont aller en empirant. Alors, on le voit, moi je peux juste te dire mon propre expérience personnelle, j'ai 55 ans, j'ai été élevé dans une ville à peu près de 8000 habitants. Les choses que j'ai vues quand j'étais jeune, même j'ai commencé à courroyer aux hôtels, comme on dit, jeune, là, mon père avait malheureusement, me laissait malheureusement faire ce que je voulais quand j'étais jeune. J'allais dans les hôtels, il se produisait du mal dans les hôtels. Mais si tu compares ce qui se faisait dans les années 50, à ce qui se fait en 2002, en 50 ans, la quantité de mal s'est énormément développée. Moi, je me souviens, dans la rue, chez nous, les 3-4 rues qui suivaient, là, il n'y a pas une seule famille que je connaissais dont les parents étaient séparés ou divorcés. Pas une seule famille. Je me souviens des 5-6 rues qui étaient autour de chez nous, je pourrais tout nommer là les familles. Je me souviens de ça par cœur. Je me souviens, là, pour être nommé, puis les parents vivent ensemble depuis qu'à la mort. Et parce qu'ils étaient sous l'influence du catholicisme. Mais depuis ce temps-là, la religion a pris des débats énormes. Et l'ensemble des péchés des hommes depuis ce temps-là s'est développé d'une manière incroyable. Des choses qui étaient des exceptions dans le temps, qui étaient 1% de la population, est rendu, là, c'est répandu. Moi, je peux dire, par témoignage personnel, que quand on dit que les choses vont s'empirer à la fin des temps, on le voit sous nos propres yeux. Il suffit d'avoir vécu dans les années 50 pour voir comment les gens vivaient au Québec, les années 50, et voir comment ils se sont rendus juste 50 ans après. C'est énorme. Puis on pourrait là, sortir des exemples, là, multiplier les exemples. J'ai pris l'exemple du divorce. On pourrait là, prendre l'exemple du vol. On pourrait prendre l'exemple de l'homosexualité, on peut prendre l'exemple de la prostitution, on peut prendre l'exemple de la drogue. Les années 50, on allait dans les hôtels, le monde prenait de la bière, c'est à peu près tout. On a du fort aussi. Mais ça s'est rendu, le pot, le hash, l'acide, etc., là, ça a rendu des drogues qui donnent ça à une fille, dans le propre hôtel, puis la fille, il l'emmène, puis elle perd la conscience. Alors, il s'est produit des choses. Aussi, les enfants qui sont battus, les femmes battues, les problèmes sociaux se multiplient. Alors, on voit carrément que quand l'homme s'éloigne de Dieu, il se produit quelque chose, c'est qu'il s'enlise dans le mal, puis s'empire dans le mal. OK, on a regardé ce que c'est pas. Maintenant, ce que ça signifie. Si on organise ce que c'est pas, on va regarder ce que ça signifie. Moi, dans ce livre-là, j'ai trouvé un super de bon exposé, je vais vous le lire, parce que je trouve que ça s'appelle 1681, Confession de foi réformée baptiste. Donc, c'est les baptistes de 1689 qui se sont réunis ensemble, les principaux théologiens, pour définir leur foi, ce qu'on appelle une confession de foi. Au cours des siècles, il y a eu des confessions de foi. Confession de foi, on ne peut pas dire que c'est 100% biblique, c'est arrivé qu'il y a eu. Mais c'est, on pourrait dire, c'est comme un portrait, un instantané de ce que les gens croyaient à une époque précise, dans un milieu précis. Alors ça, c'est la confession de foi réformée baptiste, et ce qu'ils disent sur la dépravité totale, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous le lire, tranquillement. Et le titre du chapitre, c'est « La chute de l'homme, le péché et son châtiment ». Premier point. Dieu créa l'homme droit et parfait, et lui donna une loi juste, dont l'observation lui aurait conféré la vie, et dont la transgression le menaçait de mort. Et là, on parle de mort physique, spirituelle et éternelle. Toutefois, l'homme ne garda pas longtemps cet honneur. Satan utilisa l'astuce du serpent pour séduire Ève, puis par elle, séduisit Adam. Sans aucune contrainte, ils transgressèrent délibérément en mangeant du fruit défendu, la loi de leur création et l'ordre qu'ils avaient reçu. Il a plu à Dieu, selon son conseil sage et saint, de le permettre, l'ayant inclus dans son dessein, ou dans son décret, qu'on a parlé la semaine passée, pour manifester sa propre gloire. Et là, il y a des versions. On n'ira pas voir les versets, dans le fond, c'est juste de voir la pensée, et je suis pas mal à 100% d'accord avec ce qu'ils disent. Deuxième point. Nos premiers parents, par ce péché, ont perdu leur justice originelle. Donc, l'homme, originalement, avait été juste, il faisait les choses justes, et leur communion avec Dieu. Donc, ils ont perdu deux choses. Leur justice originelle, leur communion avec Dieu, et nous, en eux. Donc, Adam et Ève en péchant, nous, vu qu'on était en Adam, à quelque part, toute sa descendance ont hérité des mêmes choses que lui. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les parties et facultés de leur corps et de leur âme. Là, troisième paragraphe. Comme ils étaient la souche, autrement dit, Adam et Ève en eux avaient potentiellement tous les hommes de tous les temps qui étaient pour bien par génération. Comme ils étaient la souche et par désignation de Dieu, représentaient le genre humain. Ils étaient comme le nous représentaient. Comme Christ représente les élus, Adam représentait l'humanité. Alors, comme ils étaient la souche et par désignation de Dieu, représentaient le genre humain, la culpabilité de ce péché fut imputée. Imputée, ça veut dire mettre sur notre compte. Alors, la culpabilité d'Adam a été imputée à tous ses descendants. Et la nature corrompue, transmise à toute la postérité descendant d'eux par génération normale. Ceux-ci sont désormais conçus dans le péché et par nature enfants de colère, serviteurs du péché, soumis à la mort avec toutes ses souffrances spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur Jésus-Christ ne les libère. Alors, c'est bien important de comprendre ça. Quatrième point. De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement déréglés, incapables et ennemis de tout bien, et totalement portés à tout mal. C'est bien important de saisir ça. De cette conception, à cause du fait qu'on vient au monde comme ça, on est complètement déréglé. On est incapable et ennemi de tout bien, et on est totalement porté à tout mal. Par nature, on est porté à faire du mal. Procède toutes les transgressions présentes. Autrement dit, tout ce qu'on fait comme péché actuellement, dans pensée, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos missions, ça vient tout du fait que nos premiers parents ont péché, et nous, on fait simplement comme suivre notre tendance naturelle à pécher. Et tant que Dieu ne vient pas nous sauver, c'est sûr que l'homme pêche, et c'est juste une question de circonstances qu'il ne devienne pas pire encore, ne s'encroute pas dans son péché. Le dernier point, cette corruption de nature demeure, c'est bien important de saisir ça aussi, demeure pendant cette vie en ceux qui sont régénérés. Ça veut dire qu'après qu'on est sauvé, notre vieille nature là, est encore là. Mais ce qui arrive, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a deux natures. On a notre vieille nature qui continue, qui est encore aussi fortement attirée par le péché qu'avant qu'elle soit sauvée. Maintenant, on a un nouvel outil, plus qu'un outil, on a une présence, on a la présence du Saint-Esprit qui, elle, si on laisse le Saint-Esprit conduire, va simplement, comme pas l'écraser, pas l'annihiler, mais va la contrôler. Va la contrôler de façon à ce que notre vie est plus contrôlée par l'Esprit de Dieu que par nos impulsions naturelles à faire le mal. Et bien qu'elle soit pardonnée, alors c'est bien important de saisir ça parce que dans les milieux, certains milieux de... pas fini, l'autre Angleterre, là. Wesley. Dans les milieux wesleyens, lui, il a sorti la théorie de ce qu'on appelle sinless perfection. Sinless perfection, c'est qu'il croit que l'Esprit de Dieu peut tellement bien contrôler son pécheur étant sur la terre que là, il peut en venir à une perfection telle qu'il ne pêche plus. Fausseté abominable. faut être abominable. Parce que l'homme, il suffit juste de si on veut observer ça et savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, il suffit juste d'observer notre propre comportement depuis qu'on est sauvé. Est-ce que depuis que tu es sauvé, tu n'as plus jamais de mauvaises pensées? Est-ce que depuis que tu es sauvé, tu ne fais jamais de mauvaises actions? Est-ce que depuis que tu es sauvé, tu dis jamais de mauvaises paroles? Puis est-ce que depuis que tu es sauvé, tu as toujours obéi à ce que Dieu dit? Le péché d'omission, c'est un péché aussi. Dieu te demande des choses, tu ne les fais pas, c'est un péché. Alors, il suffit d'observer notre propre réaction, que ça fasse 1 an, 2 ans, 10 ans ou 20 ans qu'on est sauvé. On le sait très bien que notre vieille nature est encore là. Et qu'elle cherche à prendre là-dessus. Et que si on ne laisse pas le Saint-Esprit contrôler nos vies, elle va nous entraîner encore dans du mal. Et ce qui est désolant au plus haut point, c'est quand on considère qu'on a été sauvé par l'Éternel, qu'on commence à comprendre un peu l'œuvre de Dieu, le cadeau immense qu'il nous a fait, et qu'on voit que malgré ça, si ça n'était que de nous, si ce n'était pas que Dieu va nous prendre, va nous emmener jusqu'au bout, on s'en tournerait comme des cochons se vautrer dans notre bourdie. Et ça, là, quand on commence à vraiment prendre conscience de ça, là, ça fait mal. Sur le coup, ça peut nous faire rire. J'avoue, moi, ça me fait rire un peu. Mais quand tu vraiment, tu t'arrêtes, là, puis tu regardes ce que Dieu t'a donné, puis les outils qu'il t'a donné pour que tu te sanctifies, puis que tu as encore le goût de t'en retourner dans ton passé puis de faire les cochonneries que tu faisais avant. Ça nous montre jusqu'à quel point on est dépravé, justement. Alors là, on va commencer à regarder. Tout à l'heure, on a dit qu'il avait infiltré toutes les parties des facultés du corps et de l'âme. Alors, on va commencer à regarder des facultés. Puis on va regarder des versets qui nous démontrent que l'homme est corrompu dans sa volonté et dans son esprit. Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Alors, au moment du déluge, un petit peu avant le déluge, l'Éternel avait déjà constaté, et il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que le temps, comme ça se passait à Noé, ça va revenir à la fin des temps. Et alors, le mal aujourd'hui, et plus particulièrement, des fois, dans certaines grandes villes américaines, je me souviens quand le pasteur, avant qu'on choisisse ce pasteur-là, il y en a un autre qui était venu du sud des États-Unis, il venait de la Géorgie. Et il allait prêcher dans des villes, et apparemment que certaines villes, là, en Géorgie, c'est rendu tellement violent, tu peux sortir sa rue, puis le monde va te tirer juste par plaisir. Tu mets 3-4 jeunes adolescents, là, puis ils vont y passer du monde, puis ils ont des guns. Puis ils vont te tirer dessus juste pour voir leur femme, pour rire. Ben, il y a des jeunes qui se mettent sur des choses, des autoroutes passent, là. Ils s'en vont sur des autoroutes, des roches, puis ils garochent des roches. Ben, ils vivent juste pour le fun. Voir le gars prendre le champ. Alors, quand tu es rendu dans une société où tu vis et tu es entouré de problèmes comme ça, sociaux, dans des villes, imagine-toi à quel point, là, le cœur humain est rendu qu'il se développe dans le mal, les problèmes de drogue se multiplient, la violence. Et là, c'est comme ça dit, toutes les pensées de leur vie de mauvaise. Et le verset 6 aussi, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, il a fait tuer dans son cœur. Il n'y avait pas de leur dire qui était. OK, dans le verset 11, et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et si on regarde aujourd'hui, au 21e siècle, si c'est pas ça qui se passe, la terre est actuellement remplie de violence, sous toutes ses formes. Sous la forme physique, qui est carrément de l'agression du corps, et aussi toutes les formes morales, toutes les formes psychologiques, dans les usines, les exploitations des enfants. On pourrait rentrer dans ce domaine-là, c'est énorme. L'homme est corrompu dans son cœur, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, capable de se tromper lui-même et capable de tromper les autres aussi. Et désespérément malin. Qui le connaîtra? Ou comme dans l'autre version, qui peut le connaître? L'Éternel est en train de nous dire qu'on est tordu comme ça se peut pas. On a le cœur trompeur, capable de se tromper nous-mêmes, on est capable de s'auto-séduire, de séduire les autres. Et désespérément malin. C'est beaucoup, c'est l'Éternel qui le dit. Quand l'Éternel dit un mot,
Et c'est un mot qu'il choisit. Puis même, il ajoute pour nous, comme pour nous démontrer jusqu'à quel point qui le connaîtra, ou dans l'autre version, qui peut le connaître. Alors, moi, j'ai l'impression que si l'Éternel nous faisait, par grâce, nous ouvrirait l'esprit à la compréhension de la méchanceté de notre propre cœur et du cœur des autres, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de... Je pense qu'il serait débalancé psychologiquement. Il serait plus capable de regarder, de se regarder lui-même, il serait plus capable de regarder les autres. Il serait toujours dans un état de panique, pensant que l'autre peut faire des choses que, dont tu sais qu'il est capable, qu'il pourrait faire. Alors, c'est, ça serait vraiment une grâce éternelle, mais si quelqu'un veut demander pour ça, il peut toujours le demander. Moi, je pense qu'il le sait. Le peu que je connais, là, ça me suffit. Puis, si vous voulez connaître votre propre corruption, ça, c'est vraiment une prière intéressante à demander au Seigneur. Demandez au Seigneur qui vous montre votre propre corruption en prière sincère. Et le Seigneur va vous faire voir des parties de vous-même que vous n'aviez probablement jamais vues. Il va comme juste tasser la poussière. Il va te montrer des bébites que tu n'avais jamais vues qui vivent à l'intérieur de toi. Et ça va te faire mal. Parce que quand tu es chrétien, de voir ça, quand tu es de même, dans ta dans ta réalité, dans ta laideur, dans ta corruption, ça fait mal. Alors, si quelqu'un, ça lui tente d'essayer, essayez-le. Ça, je suis sûr que c'est le genre de prière que le Seigneur va vous exaucer. Parce que plus tu vas te voir tel que tu es, plus tu vas voir Dieu tel qu'il est aussi. Après, tu vas dire, tu vas vraiment comprendre la doctrine de la grâce, comment Dieu a été bon de venir te chercher dans cet état-là, alors que tu étais dans un état de pourriture, de rébellion ouverte contre lui, un ennemi que tu blasphémais, puis il est venu te chercher malgré ça. Ça nous fait comprendre à la fois notre corruption et à la fois la grandeur de la grâce de Dieu. Corrompu dans tes affections aussi, on va le voir, Romains 8, 7. Romains 8, 7. Ici, c'est bien important de comprendre ça ici. Parce que l'affection de la chair, autrement dit, ce qu'on aime, nous, l'affection, c'est ce qu'on aime. La chair, là, c'est notre propre nature, notre nature pécheresse. Ce qu'on aime, là, c'est inimitié contre Dieu. Inimitié, là, c'est ennemi. Ce qu'on aime, là, c'est des choses qui sont ennemies de Dieu. Inimité contre Dieu. Car, on parle de la chair, notre propre nature, elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Comment Pélage pouvait répondre à un verset comme ça? Il est tellement clair, là, que c'est de la rébellion ouverte de dire le contraire. Ça dit, car elle ne se soumet pas, qui ne se soumet pas? La chair, ta propre nature pécheresse, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Alors, on disait, elle veut pas, puis elle peut pas. Alors, quand Pélage s'ostinait avec Augustin, qui disait que depuis que tu es jeune, tu es au monde, là, puis tu es juste influencé par Adam, puis si tu fais attention, là, tu peux mener une vie là, de parfaite obéissance à tout l'ensemble de la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Qui on croit, Pélage ou Dieu? Moi, je n'ai pas à choisir. Je crois Dieu. Alors, Dieu dit que on est. On ne peut pas obéir à la loi de Dieu et on ne veut pas, ni un ni l'autre. Jean 3, 19. Là qu'on voit que les hommes préfèrent le péché, préfèrent les ténèbres, ici le Seigneur il dit, et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Jésus est venu dans le monde, un matin on étudie Matthieu, et pendant 3 ans, il a multiplié les miracles, il a multiplié les sermons pour essayer de montrer au monde leur péché, puis enfin voilà. Ils n'ont pas voulu. Alors, qu'est-ce que ça dit? La lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres. Ils sont bien, les ténèbres. Ils aiment les ténèbres. Alors, on voit, ils les aiment, l'amour. L'amour des ténèbres. Ils ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien, on a vu la volonté, l'esprit, le cœur, les affections, on va le voir la conscience. Titre 1,15.
Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles, au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Alors, ta conscience est souillée. Ton esprit, ta conscience est souillée. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans une pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures d'une mauvaise conscience. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'un chrétien, après sa vie, après qu'il est devenu chrétien, même régénéré, avait encore la vieille nature. S'il n'y avait pas la vieille nature, pourquoi il aurait besoin de se purifier des souillures d'une mauvaise conscience? La logique est là. Le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, nos discours. Quand tu écoutes parler des gens, je me souviens, maintenant, on allait prendre des cafés à Sherbrooke. On s'assoyait des fois à un café, restaurant, on écoutait parler du monde. Sans vouloir écouter, des fois, on est à côté de nous autres, on les entend. Alors, t'entends blasphémer. T'entends les gens qui parlent les uns contre les autres. La ci, puis la ça, puis le ci, puis le ça. Puis le, quand la Romain nous dit, leur gosier est un sépulcre ouvert. Gosier, c'est ça, c'est de là que la sort la parole. Est un sépulcre ouvert, ça veut dire que c'est comme si ça serait un cimetière dont tu as tout ouvert les tombes. L'odeur de mort sort. T'entends ça, promène-toi dans le public, puis écoute parler les gens, puis tu vas voir les pensées haineuses, les pensées, les paroles haineuses, toutes sortes de choses qui sortent par la parole. Même nous, on a encore notre vieille nature, et quand on parle, il faut vraiment se surveiller, parce qu'on a cette tendance-là à parler en mal des autres. Puis le Seigneur nous avertit aussi dans le livre de Jacques de ne pas parler contre les frères parce que c'est s'élever au-dessus de la loi. Et on a encore cette tendance-là pour faire très attention. Mais c'est sûr que quand on croit dans la vie chrétienne, normalement, notre langage devrait être plus pur, devrait être plus recherché, notre vocabulaire devrait éliminer un paquet de mots qui sont incorrects. Mais quand tu as fait un certain chemin là-dedans, après plusieurs années, et que tu replonges, tu es replongé dans le monde par des circonstances, par ton travail, par quoi que ce soit, tu vas voir que tes oreilles vont être écorchées. Quand tu vis dans un... Comme moi, je travaille ici à maison. Là, je t'habitue, ça fait un bout de temps que je travaille à la maison. Mais je me souviens que la première année que je suis arrivé à Québec, j'ai travaillé dans le monde. J'ai travaillé 6 mois dans une entreprise où on était à 20 après dans la grandeur de la cuisine puis du salon réuni. T'avais dans un petit bureau que dans le coin. Là. Ils vont dire l'affaire que je suis faire dans ces 6 mois. Là. Et écouter parler. Des choses qui disent le sacrage, le blasphématoire, ça parle du Seigneur. Et à ce moment-là, on va dire, c'est quand tu vois ça, quand après, ça fait des années que tu es chrétien, puis tu t'en retournes dans le monde, et que tu replonges dans un milieu un peu corrompu, tu te rends compte que ça t'écorche les oreilles, ça t'agace, ça t'agresse. Mais c'est là qu'on voit que les discours de l'homme sont corrompus. Psaume 58, verset 3. Psaume 58, verset 3. Loin de là, dans votre cœur, vous commettez des iniquités. Vous ordonnez sur la terre la violence de vos mains. Les méchants se sont détournés dès le sein maternel. Les menteurs se sont égarés dès leur naissance. Alors, on voit ça. Des fois, des enfants là, sont tout jeunes, ils ont 2-3 ans qui commencent à te mentir. Alors, c'est naturel. Et t'as Jérémie 8-6. J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Va-t'en n'importe où dans le centre d'achat, puis tu mets tout écouter les conversations des gens, puis tu vas voir qu'il y en a des péchés. Tes enfants, là, ça déboule. Les péchés déboulent. Et c'est vraiment le gosier qui est un sépulcre ouvert. Nul ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous, ils retournent à leur course comme un cheval qui se précipite au combat. Romains 3, 13. Ah oui, justement. Leur gosier est un sépulcre ouvert. C'est un langage poétique, mais tellement rempli de sens, tellement rempli. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Je pense que c'est dans Jean que ça dit que notre langue est enflammée par le feu de la géhenne. Alors, l'homme, naturellement, est méchant et son péché va s'exprimer dans sa pensée, dans sa parole et dans ses actions. Et là, on voit que c'est vraiment, ça corrompt tout l'être au complet. Ils se sont servis de leur langue pour tromper, donc pour séduire, pour mentir. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. T'es-tu déjà, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte de ça dans votre vie, moi j'ai vécu une expérience que je ne raconterai pas, là. Mais je peux vous dire une chose, qu'aujourd'hui, je sais ce qu'une parole peut avoir comme conséquence. Des fois, tu peux dire quelque chose de quelqu'un, et les conséquences de ta seule parole, là, ça peut être énorme. Quand la Bible dit dans Jean que la langue est un bien petit membre, mais il peut allumer des feux de forêt, comme l'équivalent d'un feu de forêt. Autrement dit, la langue, là, quand tu es en entreprise ou dans n'importe quoi, par la médisance ou par la calomnie, tu peux partir quelque chose qui va avoir des répercussions, des fois des années, des années, des années, qui peut même faire mourir des personnes juste par une parole que tu as dit. Alors, de prendre conscience en vieillissant dans la vie chrétienne, chaque point, c'est important de demander au Seigneur de nous donner le contrôle de notre langue. Pourquoi dans le livre de Jacques, il nous dit qu'il faut le demander par grâce? On n'est pas capable de se contrôler par nous-mêmes, même comme chrétien. Comme chrétien, là, disons, je me dirais, à partir de 8h moins 20, dimanche au soir, je fais attention à ce que je dis, puis je ne pêcherai plus par la langue. Ça fait pas 2 minutes que je vais l'avoir dit, que je vais en faire un autre. La seule façon de te rendre compte, quand tu commences à te rendre compte de ce péché-là en toi-même, c'est d'aller face à Dieu et de lui avouer ton incompétence et ton inhabilité à être capable de le faire, puis de lui demander à lui de te le donner. Il va te le donner par grâce, et à ce moment-là, tu vas être capable d'accomplir des choses, mais pas parce que tu es capable de l'accomplir par toi-même. OK, Romains 3:13, on l'a lu. Corrompu des pieds à la tête, Ésaïe 1, verset 5 à 6. 1, 5 à 6. Il dit, le Seigneur, il leur dit, « Où vous frappez encore si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade, et tout le cœur languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. » Alors, ça vient démontrer quelque chose. Dieu nous déclare qu'on est pourri des pieds à la tête. Et qu'il n'y a rien à faire avec ça. Maintenant, est-ce que c'est à partir de 7 ans, comme l'Église catholique nous disait, ou si c'est dès la naissance? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Psaume 51, verset 7. Ici, c'est David qui parle. Il reconnaît qu'il a été conçu dans l'iniquité. Ça ne veut pas dire ça que David, la mère de David, avait nécessairement fait un péché d'adultère. Ça veut dire qu'il reconnaît que dans sa conception, il héritait de l'iniquité. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alors, les enfants, un petit peu plus loin, psaume 58, verset 4. Les méchants se sont détournés dès le sein maternel, les menteurs se sont égarés dès leur naissance. Et je vous le dis, s'il y avait une façon de voir, d'apprécier ça par toi-même, sans de... C'est la parole de Dieu le dit, là, mais si tu veux observer, va-t'en dans un parc, puis regarde, observe des enfants pendant une heure. Juste observation, regardez ce qui se passe. Et là, tu vois toutes sortes de choses qui se passent. Ils se tirent des bêtises, ils chantent des bêtises, ils se garantent des rangs, ils se veulent se donner des coussins à la tête. La mère est toujours en train de les empêcher le bras. Puis c'est vraiment... On voit que l'enfant, il est jeune, puis il a déjà toute cette agressivité à l'intérieur de lui, cette méchanceté. Si tu le laissais aller, puis il mettrait un arme dans la main, il pourra aussi donner un coup de couteau à l'autre enfant. C'est le même. C'est pas drôle. Je pense que ce qu'on va faire, on va le faire en deux bouts. Parce qu'il m'en reste trop à faire. On va le faire en deux bouts. On va arrêter là. Puis, OK. On va arrêter là. Puis, on va continuer la semaine prochaine. Et là, pour, on va répondre aux questions. Il y a des personnes qui auraient des questions. On va continuer sur une deuxième partie du la totalité et l'inhabilité du cœur de l'homme. Mais on va voir une chose qui est importante. J'aimerais vous montrer juste un petit, comme un petit graphique que je vais t'affaire. Pour démontrer, c'est comme si on prenait des pièces de puzzle, disons qu'on prenait des pièces de casse-tête, il y aurait 4 morceaux. Et quand on dit corruption totale, les évangéliques, là, dans leur étendue, là, ils vont dire ça, ils vont dire l'homme est total et corrompu dans son corps, dans son esprit, dans sa volonté. OK, pas de problème. Mais regarde, s'il y a 4 morceaux, il va en 3 morceaux. Dans la gravité, c'est que sont irrécupérables. Irrécupérables, ça veut dire que naturellement, ils sont incapables d'aucun bien. Spirituellement, ils sont morts. Puis volontairement, ils sont des esclaves. Maintenant, l'inhabilité, ça va jusqu'à incapacité de choisir le bien, incapacité de croire, incapacité de se repentir, et cette corruption-là, dans son inhabilité, va jusqu'au dans la gravité. Et la gravité est absolue en ce sens que l'homme, pour recevoir la grâce, quand il la reçoit, il est totalement passif, il est absolument coupable et absolument impuissant. On va aller plus en profondeur la semaine prochaine là-dedans, mais ce que j'aimerais que vous reteniez comme idée, c'est quand on discute de la doctrine du premier point du calvinisme, qui est la corruption et l'inhabilité, la plupart vont s'entendre sur le fait que les hommes sont corrompus dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur parole. Mais là où ils vont pas assez loin, pourtant c'est les Écritures qui le déclarent, c'est que étant mort, ça t'enlève toute possibilité de vouloir venir au salut, de vouloir faire du bien ou de pouvoir en faire, et que pour venir au salut, par toi-même, tu lui es absolument, totalement, et totalement impuissant, incapable, et que c'est Dieu, et c'est là que c'est rattaché avec la doctrine de l'irrésistible, la grâce irrésistible, c'est qu'il faut que ce soit Dieu qui vienne faire le travail de te régénérer, de te donner la vie. Et en te donnant la vie, c'est là que tu es capable de te repentir, tu es capable de comprendre l'œuvre de Christ, et tu vas accepter Jésus-Christ, tu vas accepter son sacrifice. Alors, si tu ne fais pas la part des choses, tu discutes avec quelqu'un, puis il dit, moi, ah oui, total depravity, tu vas dire, ah, moi aussi, je crois ça. C'est là l'importance de comprendre, commencer à comprendre, quand tu discutes avec les gens, qu'est-ce que tu veux dire, puis pourquoi ça va jusqu'où la totale dépravité, la corruption totale. Si tu ne poses pas ces questions-là, et que tu ne vois pas dans son esprit à lui, ça va jusqu'où, il peut avoir raison dans sa conception, mais il ne prend pas l'ensemble du portrait. Dans le fond, c'est comme, moi, j'avais l'intention éventuellement d'écrire un livre là-dessus. Ce que j'aurais fait comme une page comme ça, puis j'aurais fait comme des morceaux de puzzle. Des morceaux qui se rattachent l'un dans l'autre. J'aurais montré que, dans le fond, quand on discute, si tu n'as pas les 4 morceaux du puzzle, tu n'as pas l'inhabilité, corruption totale et inhabilité. Et alors, à ce moment-là, si tu ne l'as pas, on ne peut pas dire d'une personne qui ne voit pas la doctrine de cette façon-là, qu'il a la même conception de la corruption et de l'inhabilité totale. Alors, quand on parle de points de calvinisme, il y en a qui calculent, ils disent, ah, oh, je suis 4 points. Oh oui, t'es 4 points. Ton point, c'est sûrement les méthodes d'atonement, c'est sûrement la rédemption particulière pour laquelle tu n'es pas d'accord. OK, là-dessus, il va dire OK. Là, il va dire, je suis un 4 points calviniste. Commence par le premier point, puis regarde de quelle manière il comprend, et tu vas voir que sur les 4 morceaux du puzzle, il n'y en a rien qu'un. Mais il dit, je crois à la corruption totale de l'homme. C'est de là viennent tous les problèmes. Et non seulement pour ça, là, pour cette doctrine-là, mais sur le deuxième point, c'est la même chose. Sur le troisième point, c'est la même chose. Le quatrième point, c'est la même chose. Alors, c'est qu'ils utilisent des mots, mais les mots ne veulent pas dire la même chose. Ils ne se rendent pas au même point. Oui? Question?
Le verset de torchon souillé, là, dans Ésaïe, c'est quoi, non?
Le torchon souillé, c'est à Jérémie? Ah, torchon souillé. Ah, je l'ai pas
mentionné. C'est comme...
Torchon souillé, je sais pas par cœur.
Et puis...
Mais on va sûrement le rencontrer dans l'ensemble de notre étude sur le... De toute façon, c'est pas dur à trouver avec une conférence.
Ouais. Puis tu parlais aussi des autres dénominations prétendues chrétiennes, mais tu parles du libre-arbitre. Moi, j'ai un article sur les témoins de Jéhovah, là, qui, officiellement, là, leur position est pour le libre-arbitre. Le libre arbitre est un merveilleux don de Dieu. Puis je suis clair que si on étudierait Mormon, on aurait le même résultat. Et tu dirais n'importe qui, là. Le libre arbitre, je pense que tout est
ici. Moi, premièrement, les témoins de Jéhovah, juste par le fait qu'ils disent que Jésus-Christ est une créature, pour moi, ils sont comme tout de suite déclassés. Le reste, je crois, ça m'intéresse même.
Mais non,
si ça m'intéresse, ça m'intéresse juste par. Comme disons que je connais quelqu'un qui est pris là-dedans, puis que là, je veux rentrer dans leur système pour le défaire bibliquement. Là, ça m'a intéressé. Mais au départ, moi, les témoins de Jéhovah et les Mormons, je ne les considère même pas comme des chrétiens. Alors, pour moi, quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est une créature, puis même le frère de Satan, moi, il est éliminé, je ne parle même pas. Moi, c'est comme. C'est même pas un chrétien, ça. Si je parle à quelqu'un d'une église baptiste de Beauport, qui est dans le fellowship, je pense qu'il peut être un véritable chrétien, mais sur le côté doctrinal, il a été mal enseigné. À ce moment-là, je n'ai pas de misère à discuter avec lui s'il veut discuter. Et si au départ, il est déjà fermé, je ne veux même pas ouvrir la Bible pour voir si Dieu, ce que Dieu dit. Tu sais, si des personnes disent qu'ils sont contre l'élection, contre la prédestination, juste dans le Nouveau Testament, là, il y a peut-être 150 versets. Alors, s'il est prêt à ouvrir la Bible, d'aller regarder les 150 versets avec moi, on va aller voir si ce que Dieu dit, c'est ça qu'il dit, ou c'est pas ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit, ben, je veux dire, c'est quoi? Tu te plies-tu à ce que Dieu dit? Ou tu continues avec ta vieille idée de vouloir dire que c'est selon ta conception ou selon ce qui te plaît. Ça plaît au cœur de l'homme de dire que Jésus est mort pour tous les hommes, mm-hmm. puis que c'est leur foi et leur volonté qui fait en sorte que tu es sauvé ou non. Ça plaît au cœur de l'homme au bout. Mais dis qu'il est perdu, dis qu'il est corrompu, dis qu'il n'est pas capable de venir de faire aucun bien, dis que c'est Dieu qui est obligé de le sauver parce qu'il était capable de se sauver par lui-même. Et ça déplaît au cœur de l'homme. Ça l'humilie au plus haut point. Parce que là, il est obligé de s'humilier devant Dieu. Il est obligé de reconnaître que celui qui est sur le trône, c'est pas lui, avec son libre arbitre et sa décision. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui décide s'il sauve ou s'il ne sauve pas. Moi, quand j'entends des affaires de même, des témoins de Jéhovah, j'ai aucun problème avec ça, parce que quand tu fais l'erreur fondamentale de ne pas croire correctement sur Jésus-Christ, le reste, c'est évident que si tu fais une erreur sur le salut, une erreur grossière au point, même les certaines dénominations qui vont croire que le salut est accessible à tous, au moins sont encore jusqu'à un certain point biblique. Mais quand tu es rendu là, que tu dis que Jésus-Christ est un ange, alors que les Écritures, il y a de multitudes de versets sur la divinité de Jésus-Christ. Mais là, c'est un problème fondamental. Pour moi, c'est comme si c'était.
Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les Arméniens, les évangéliques arméniens, puis les sectes non sauvées, ont quoi en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est
le libre arbitre.
Ça que moi, je regarde, des fois, qu'est-ce que je fais? Je regarde les gens qui ont les mêmes opinions que moi, je regarde comment ils marchent. Moi, je me dis, je suis content de voir que les témoins de Jéhovah sont pas calvinistes.
Ouais.
C'est un bon signe.
OK.
Mais un autre affaire, je veux dire, on parlait justement de que les pécheurs sont pas aussi méchants qu'ils pourraient l'être.
OK.
OK. On a parlé de la conscience. Il y aura aussi le gouvernement humain.
OK.
La loi et l'ordre dans la société.
Okay.
Qui empêche le monde de devenir plus méchant.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Enlève les contrôles sociaux, enlève la police.
C'est bon
sens. Fait juste, regarde à Montréal, il y a des fois, là, il y a des coupes Stanley ou des choses sportives qui arrivent dans une ville, là. On dirait que le monde, là, sont déchaînés. Après, ils virent fous, ils rentrent dans les milieux des centres-villes, cassent tout. Ça, c'est une circonstance. On pourrait multiplier les exemples que quand les hommes sont placés dans des circonstances où ils peuvent faire le mal sans contrainte, sans peur de se faire arrêter ou quoi que ce soit, des fois, là, de voir, surtout quand ils sont en communauté ensemble les uns les autres, s'encouragent les uns les autres. Dans Romains, on étudie Romains, je me souviens, il y a un verset qui dit, non seulement ils ne se contentent pas de faire du péché, mais leur plaisir, c'est d'inventer des nouvelles affaires du mal et d'entraîner les autres à leur suite. Alors, le pécheur ne se contente jamais d'aller aussi loin qu'il peut. On dirait qu'il n'est pas capable d'aller loin dans le péché sans que dans sa méchanceté, ils veulent emmener d'autres.
Ils sont ingénieux au mal.
Ingénieux au mal, ils cherchaient à influencer d'autres, à le suivre. Donc, c'est un degré plus loin. Oui, as-tu d'autres?
Moi, j'ai une question que peut-être qui sera bénéfique pour ceux qui vont écouter cette cassette. Crois-tu que l'apostasie présente dans les églises chrétiennes, ça résulte un peu du fait que dans le passé, la majorité des églises étaient calvinistes et maintenant, la plupart sont arméniennes. Vois-tu une corrélation entre les deux?
Définitivement. Définitivement, que je vois une corrélation entre le fait d'abandonner la saine doctrine. Parce que quand tu abandonnes la saine doctrine, pourquoi les catholiques n'ont pas de difficulté aujourd'hui à approcher certains pentecôtistes, certains adventistes, certains baptistes même, et des rassemblés, que ce soit un curé qui prêche et qui dise une messe, qui donne la communion après, puis que personne qui voit rien? C'est quoi le problème? C'est parce qu'ils n'ont plus la doctrine solide, la saine doctrine. Ils n'ont plus la doctrine biblique. Et ils se disent, là, leur point commun, c'est l'amour. Ne nous divisons pas, ne parlons plus de doctrine. Le mot doctrine, dans certains milieux, là, c'est comme si tu parlais du diable. La doctrine, ça divise. Mais effectivement que ça divise. Ça divise le vrai du faux. Parce que quand tu parles la vraie doctrine, les faux n'ont plus de voix. Et si tu dis, tu crois ça, toi, de chez vous? Nous autres, on ne croit pas ça, mais c'est pas de problème. Nous prions ensemble. L'un va dire le rosaire dans son coin. L'autre va aller à la messe, puis l'autre va faire n'importe quoi. Les affaires qui sont blasphématoires, et ils sont même plus capables de le voir. Ben, ils ont un problème extrêmement sérieux. Qu'est-ce qui fait l'apostasie? Moi, à mon avis, il y a des chrétiens, que pas tous les chrétiens sont d'accord avec moi. Je parlais avec celui qui m'a emmené au Seigneur, là, il est plus vieux que moi comme chrétien, il a 30 ans de vie chrétienne, et lui, il croit que les chrétiens, que c'est les véritables chrétiens qui sont dans l'apostasie. Moi, je dis non. Les véritables chrétiens n'apostasieront jamais. Ceux qui sont les véritables, ceux qui ont été des professants, qui ont dit connaître Christ, qui ont voulu être sauvés selon leur décision, qui n'ont pas reconnu que c'était quelque chose de Dieu, et qui n'ont pas reçu de transformation sanctificatrice dans leur vie, c'est sûr que quand la grande séduction va venir, ils vont tous s'unir avec ça. Moi, je fais juste voir le mouvement, juste depuis que je suis chrétien. L'écuménisme, quand ça a commencé, là, je pense que ça a commencé au début des années 1900, et aujourd'hui, là, il y a des choses qui se font aujourd'hui, l'union de protestants, de baptistes, de catholiques ensemble, et de pentecôtistes et de toutes sortes d'affaires. Ça a commencé, c'était juste les chrétiens, on pourrait dire ceux qui portent le nom de chrétiens, qui se rassemblaient ensemble et qui rejetaient la doctrine. Mais là, ils viennent de faire un pas supplémentaire. Là, ils s'en vont que c'est toutes les religions. Alors, quand on parle de Babylone la Grande, de l'Apocalypse, c'est celle qui va dire, tout le monde va dire qu'il y a un Dieu. Mais le Dieu qu'ils vont reconnaître, là, c'est pas Jéhovah, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas le Saint-Esprit tel qu'il est écrit dans les Écritures, c'est Satan. Il va se déclarer, lui, étant leur Dieu, et là, ils vont l'accueillir. Mais on ne vient pas me dire que ces personnes-là qui apostasient comme ça, qui s'éloignent de la vérité, qui s'éloignent de la sainte doctrine, que c'est des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Ils vont s'éloigner justement parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et ceux qui sont à l'intérieur de ces milieux-là, ça, dans vos prières, je vous recommande de prier souvent pour ça. Les personnes, priez le Seigneur, parce qu'il y a sûrement dans les églises apostates actuellement des véritables chrétiens qui sont là-dedans, qui n'ont pas reçu d'instruction, qui sont comme des bébés, qui ne connaissent pas la doctrine, ne connaissent pas leur Bible, ils n'ont jamais étudié, et qui sont influencés par toutes sortes de fausses doctrines, mais qu'à quelque part là-dedans, ils doivent filer malheureux. Et le Seigneur, dans sa souveraineté puis dans sa miséricorde, à cause de nos prières, je suis sûr qu'il va permettre que, il arrive un petit traité, il arrive un petit livre, il arrive une petite conversation. Le Seigneur permet que les circonstances arrivent de telle sorte que ses enfants soient éveillés à la vérité et qu'ils s'éloignent, parce qu'en fait, on va étudier notre chapitre sur la séparation. On va voir que sur la saine doctrine, le Seigneur ne nous demande pas des infiltrés ou des convaincre, il nous demande de nous séparer. Point final, ça sépare de l'autre quand ils ne sont plus dans la vérité. Définitivement, comme tu dis, il y a une corrélation. Je vais juste prendre l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, à l'époque de Charles Spurgeon, quand je vous ai tout envoyé les liens de Downgrade Controversy, quand Spurgeon
prêchait le salut tel que nous on le prêche, il s'est rendu compte que là, dans le grand milieu des églises baptistes, il y avait d'autres chrétiens à travers ça, il s'est rendu compte que là, il y avait des hérésies, des choses qui étaient carrément antibibliques, et là, il les avertissait, il disait, j'ai entendu dire que telle chose pourrait dans telle église, ou dans tel milieu, dans telle école biblique, réagissez, démontrez que vous êtes contre. Il réagissait jamais, il réagissait jamais. Il était bien patient, il a attendu, puis à un moment donné, il s'est décidé, il a accompli ce que Dieu dit, séparez-vous d'eux. Il s'est séparé d'eux, ça a eu des conséquences énormes en Angleterre. Les véritables chrétiens se sont sortis d'eux. Et les faux, quand tu regardes, la meilleure façon de vérifier s'il y a vérité là-dedans, regarde historiquement qu'est-ce qui s'est passé. L'ensemble des églises desquelles il s'est séparé, aujourd'hui, sont rendus soit dans le cubilisme, sont rendus soit des unitariens, qui ne croient même plus à la Trinité, qui sont rendus pourris à l'os. Alors, ça prouve une chose. Quand tu t'éloignes de la vérité, tôt ou tard, il y a comme une dégradation qui se fait. Moi, j'appelle ça les marches. Dans le jeu, c'est qu'il démontre ça. Tu passes 5 points calviniste, 204e point calviniste, puis à un moment donné, tu tombes arminien. D'arminien, tu tombes à libéral, puis de libéral, tu tombes à unitarien. Puis à un moment donné, tu viens que tu ne crois plus du tout. Ou bien non, tu crois à des affaires complètement hérétiques, que là, Satan va apparaître, puis ils vont l'accueillir comme étant Dieu. C'est là que ça va lui venir. Ça ne peut pas faire autrement. Il s'éloigne de la parole de Dieu. Va-t'en sur le site là, que tu m'as envoyé, là, où qu'on voit Benny Hinn, ce gang-là, puis regarde dans leurs assemblées ce qui se passe. Des chasseurs de démons, des cocoricots, des roulages à terre, et bien souvent, la parole de Dieu est ridiculisée. Ils ne s'en servent plus, ils ne la rouvrent plus. Et là, ils prétendent qu'ils ont reçu des révélations du Saint-Esprit. Et bien souvent, les révélations qu'ils reçoivent supposément du Saint-Esprit sont des faussetés, des mensonges qui sont démontrés après lieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit d'un prophète dont les prophéties ne s'accomplissent pas? Dieu dit que c'est un faux prophète. Alors, Benny Hinn, là, on peut prendre juste 3-4 exemples qu'on a sur le site. Là. Il a dit des choses, des prophéties, qu'il a dit ouvertement, qu'il a dit que c'était l'Esprit de Dieu qui avait dit ça. Ils ne se sont pas accomplis. Alors, qu'est-ce qui est selon la Bible? C'est un faux prophète. Et non seulement s'il avait fait juste ça, mais il y a des multitudes d'autres choses. Il n'y a pas rien que lui. Alors, le milieu pentecôtiste est probablement plus à danger que certains autres milieux à cause du fait qu'ils sont tellement embarqués là-dedans. Je ne dis pas toutes les églises. Je ne veux pas là, dire des choses publiquement qui ne sont pas vraies. Là. Je crois que chez les pentecôtistes, il y a beaucoup de personnes sauvées, mais je pense qu'il y en a beaucoup des égarés, je pense qu'il y en a beaucoup de professeurs aussi. Et c'est sûr que quand l'Église catholique va vouloir les ramener sous sa jupe, elle n'aura pas de difficulté parce qu'ils n'ont pas aucun discernement. Ils ne sont pas véritablement sauvés. Et en plus, ils méprisent la parole de Dieu et ils s'inventent des nouvelles révélations supposément venant de l'Esprit et qui sont prouvées après Dieu que c'est des faussetés, que ça s'est jamais complété, jamais complété.
Et aussi, une autre question, crois-tu que épouser les doctrines de Jacob Arminius, l'arminianisme et tout ça, ça peut mener à la fierté si on ne croit pas à la dépravité totale, l'incapacité totale? Ça veut vouloir dire nécessairement qu'on croit à la puissance de l'homme de changer son destin.
Si tu regardes l'ensemble des deux systèmes, c'est qu'on pourrait le résumer assez facilement. L'arménianisme est Dieu qui le trompe, puis Dieu à ses pieds en train de le supplier, tandis que le calvinisme, c'était le contraire, tu mets Dieu sur le trône, puis tu mets l'homme à terre, à genoux, en train de le supplier. Ça, c'est vraiment deux images, c'est vraiment résumé extrêmement succinctement, là. Mais c'est ça l'idée, c'est que l'arménianisme, il se voit comme étant, tu sais, des images que Dieu vient cogner à ta porte, les deux pieds dans la neige, là, puis, tu sais, ils réduisent Dieu à... C'est quelque chose, c'est enquêteux, c'est ridicule.
Et par l'incapacité totale, toute la question de salut par les hommes, c'est incompatible.
Ah oui, tu
parce que si l'homme n'a pas la puissance de pouvoir...
Mais ce qui est drôle, c'est que tu vas te rendre compte que quand tu vas avancer dans tes lectures que tu vas faire sur le pour et le contre, parce que là-dedans, tu vas te rendre compte qu'il n'y a jamais... C'est bien rare qu'il y a il y a un petit peu de mitoyens. Il y en a qui cherchent à aménager la chèvre et le chou. Il y a toujours une clientèle comme ça, du coup, partout. Mais en général, quand tu vas voir les Arminiens et les Calvinistes, là, c'est vraiment, là, ils s'accusent mutuellement de choses. Là. Mais est-ce que ça se peut que les deux aient raison? impossible. Alors, il y a quelque chose qui se passe, il y en a un des deux qui a tort. Et plus tu avances, plus tu plonges dans les Écritures, plus c'est sûr que tu es convaincu que tu as raison. Alors, mais moi, ce que je veux faire penser comme remarque à cet effet-là, là, tu parles d'orgueil spirituel, que l'arménianisme peut t'amener à l'orgueil spirituel, c'est que je crois que oui, mais deuxièmement, ce que tu dis que ça va faire chez les Arméniens, c'est exactement ce dont les Arméniens nous accusent. Alors, quand tu vas lire la littérature, ils vont dire que ça rend que les calvinistes, la doctrine, te rend orgueilleux. Au contraire, plus tu vas connaître ta doctrine de la dépravité, de la corruption totale et absolue, et j'ajoute la deuxième morceau du puzzle, l'inhabilité totale de l'homme à venir au salut de par lui-même sans que Dieu intervienne, c'est quelque chose qui est humiliant. C'est bien ça. C'est pas toi qui viens au salut, c'est Dieu qui vient te sauver. C'est différent. Hein? Et aussi, quand on va rentrer dans la limite d'atonement, qu'on va voir que ça se peut pas que Jésus-Christ ait payé pour la punition de tous les hommes, sans ça, tous les hommes seraient sauvés. Alors, il y a comme des inconséquences dans leur système qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Quand tu lis leur livre de théologie, c'est tellement tordu, tu as de la misère à faire le mariage de tout ça, puis à mettre ça en place comme des pièces de puzzle, parce que c'est pas logique, ça tient pas debout. Mais quand tu regardes le système calviniste dans son ensemble, et tu regardes jusqu'à quel point il est fidèle aux Écritures, à un moment donné, comme on dit en anglais, the big picture se fait. Et à un moment donné, quand tu comprends le grand ensemble et tu sais que c'est fondé ces Écritures, c'est tellement logique, tellement harmonieux et tellement en pleine conformité avec les Écritures que là, quand tu atteins ce niveau de conviction-là, tu ne retourneras jamais sur tes anciennes convictions. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a certaines personnes dont j'ai déjà lu des textes ont amené des positions que j'ai lues, que c'était de toute beauté à lire, et qui aujourd'hui sont dans l'apostasie avec les catholiques, puis avec tout le grand mouvement œcuménique américain et international, Packer. G.I. Packer, là, tu liras ses livres, là, puis c'est encore édifiant, je les recommanderais même encore à des chrétiens. Mais comment un gars peut en être venu à avoir des convictions comme ça et à glisser? Il y a deux solutions. Ou il n'était pas sauvé, c'était juste une compréhension mentale. Il y avait une super de bonne compréhension mentale, en tout cas. Mais que, dans son cœur, peut-être qu'il n'avait jamais rien compris, ou il s'est laissé séduire par l'argent. Parce qu'un jour, le Seigneur va le dompter, va le corriger, puis il va revenir. Ou c'est un vrai chrétien qui est dans l'erreur, qui s'est laissé séduire par l'erreur. Ou c'est un faux, qui a juste compris la doctrine dans sa tête, mais que l'Esprit de Dieu n'avait jamais fait une œuvre régénératrice dans son cœur.
Je vais poser une dernière question, et je pense que ce sera bénéfique pour ceux qui vont l'entendre. Vois-tu la connexion de l'arménianisme qui donne un peu de pouvoir à nous, et c'est une capacité pour l'homme de... Ben, ok, un peu, ça c'est peut-être exagéré, beaucoup. C'est plus que ça. Ouais.
Énormément.
La capacité de l'homme de venir à Dieu dans ses propres temps, que ça veut dire que l'homme peut mériter dans une certaine...
Ben oui. Il y a comme un sous-entendu là-dedans, si je suis venu à Dieu, c'est parce que moi j'ai vu et j'ai accepté. C'est comme, il s'attribue une certaine valeur, et le salut devient comme une sorte d'œuvre.
Ouais. Et pour continuer, c'est ça, que l'homme, en venant par ses propres temps, ça peut mener à l'hérésie du salut par les œuvres. Et plus que toutes les autres religions du monde, c'est ce qu'ils prêchent, le salut par les œuvres. L'homme qui peut venir à Dieu par ses propres... C'est presque naturel que l'arménianisme, c'est vraiment... Ça peut apporter les chrétiens, les professeurs...
La meilleure façon de voir que ce que tu dis là est vrai, c'est de voir qu'actuellement, l'Église catholique a toujours prêché le salut par les œuvres. Et comment ça se fait que certaines sections du protestantisme, des baptistes et d'autres grandes dénominations, presbytériens, etc., comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir de la communion avec eux autres pour pas avoir de problème? Mais si un chrétien qui a une conviction calviniste, puis qui se réunit avec des catholiques, puis il n'y a pas de problème,
Moi, ça me donne un grand coup sur ma conviction, ce qui est véritablement régénéré par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'a rien compris. Ça peut arriver qu'une personne parle de Jésus-Christ, puis que ma soeur, moi, elle parle de Jésus-Christ à pleine bouche, puis son mari aussi. Mais, quand ils parlent des abominations de la messe, ou tu leur parles du rosaire, tu leur parles du purgatoire, tu leur parles de Marie, et là, la liste, on pourrait l'allonger, je vais en nommer 4-5, mais je pourrais en nommer des fausses doctrines, j'ai le catholicisme, mais il y en a long comme le bras. Alors, si tu es rendu que tu te réunis avec ces gens-là, puis tu vois plus de problème, ça veut dire que tu ne connais plus vraiment ton livre. Ou tu ne le connais pas, ou tu n'obéis pas. Parce qu'il y en a qui le connaissent. Il ne faut pas dire que Billy Graham ne connaît pas son livre. Il y a un doctorat en théologie. J.I. Packer, il y a un doctorat en théologie. On vient de pas me dire qu'il n'a jamais étudié la Bible, là. Qu'il ne connaît pas sa Bible. Il la connaît probablement 10 fois mieux que moi, au point de vue de la connaissance de la Bible. Mais la Bible, il ne faut pas juste la connaître. Dans la tête, il faut lui obéir. À partir du moment qu'il n'y a pas d'obéissance, c'est juste une connaissance intellectuelle. Les universités en sont pleines d'intellectuels qui connaissent la Bible. Va-t'en dans les facultés de religion ou les facultés de sciences religieuses, là, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, tout partout dans le monde, les facultés traditionnelles qui sont mortes, comme on pourrait dire théologiquement, là. Il y a du monde là-dedans qui ont des connaissances bibliques que je n'ai pas, qui ont étudié dans des livres, qui ont lu des centaines de volumes et de livres, qui connaissent des choses que je ne connais pas. Mais est-ce qu'ils connaissent véritablement Dieu? Est-ce qu'ils sont véritablement sauvés? Ça, c'est une autre affaire. Là.
Mais je pense à un verset pour vraiment bien expliquer ça. Esdras 7.10.
Oui.
Car Esdras avait appliqué son cœur, avait cherché la loi de l'Éternel et à la pratiquer et à enseigner.
Mmh. Vraiment les trois aspects que c'est important d'étudier la parole de Dieu, d'appliquer son cœur à l'étudier. Et quand on dit que c'est rattaché à notre destinée éternelle, bon, on devrait avoir juste un livre qui devrait être important dans notre temps, toute notre vie, ça serait celui-là. Tout centrer notre attention là-dessus. C'est notre destinée éternelle. C'est très important. Mais comme Dieu dit par Esdras, non seulement faut que tu mettes ton cœur à l'étudier, à l'apprendre par cœur, à la connaître le maximum de par tous les moyens possibles, mais si tu n'obéis pas, c'est zéro. C'est zéro. Ils peuvent avoir des gars qui peuvent connaître l'hébreu, qui peuvent connaître le grec, ils peuvent avoir étudié la Bible pendant 20 ans, ils ne sont même pas sauvés. Ça les donne, ça. Ils ont un paquet de choses dans la tête, mais ils n'ont rien dans le cœur, ils n'ont pas le Seigneur dans le cœur. Ça donne rien. Moi, je me bats mieux, moins savant, puis être sauvé. Et l'autre chose, c'est que non seulement tu as le devoir de l'apprendre, tu as le devoir de lui obéir, mais il y a une autre chose qui se rajoute après. C'est que tu as le devoir d'aider les autres. Enseigner, c'est prendre la vérité puis la transmettre. Pourquoi aujourd'hui on est capable de parler encore de ces choses-là? C'est parce que d'un siècle à l'autre, il y a des gens qui ont transmis le flambeau de la vérité, puis aujourd'hui on a des livres qu'on est capable on sait qu'on la tient encore la vérité, mais plus on va rapprocher des temps de la fin, plus le troupeau va être petit, et de là l'importance, comme ça dit dans Hébreux 10, plus ça va être important de se rassembler, puis d'avoir les coudes serrés, parce que ça va être, le combat va devenir de plus en plus difficile, puis plus ceux qui vont se séparer vont être mal vus, jugés, mis de côté, étiquetés avec des noms gros de même, méprisés, va-t-on dans le milieu pentecôtiste, puis il y a des personnes qui parlent contre Benny Hinn, là, il a dit ouvertement en pleine télévision qu'il les maudissait au nom de Dieu. Maudire des chrétiens, c'est rendu loin quand tu as des gens comme ça. Là. Alors ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, il n'est pas le seul. Là. Des personnes qui ont blasphémé publiquement, puis si tu les dénonces, ils te maudissent, puis ils t'étiquettent comme de quoi tu es un mort spirituel, que tu es un dur, un cœur dur, un gars qui ne comprend rien, un chicanier. Là, les étiquettes, en veux-tu, ils vont t'en mettre, là, ils vont te taguer, ils vont t'en mettre, là. Autant qu'un. Et là, tout le monde qui les écoute, ça, là, ça applaudit des salles de 700, 800, 2, 3000 personnes, ça applaudit à tout rond. L'argent rentre là-dedans, à planche, fond de l'argent. Ils se promènent en limousine, en Cadillac, comment ils appellent les gros noirs, là, qui viennent d'Angleterre, les Rolls Royce, hey, le noir, là, Price.
Price se promène en Rolls Royce. Ça, il se prétend un homme de Dieu. Quand tu vas sur Internet, tu vas le voir sur son nom, tu vois les blasphèmes qu'il a dit contre Jésus-Christ. Il est bien mieux être pauvre dans ma cuisine, tu sais, avec quatre personnes qui veulent suivre le Seigneur, qu'être en avant d'une grosse assemblée comme ça.